I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, c'est Cyril Morin.
Salut à tous, c'est Julien Pereira.
On est mercredi, on va parler mercato. Bienvenue dans votre rendez-vous 100% transfert made in Eurosport, mercredi mercato. Comment ça va, Julien, en ce mercredi, avec cette nouvelle émission, avant de partir en vacances, si je ne m'abuse?
Écoute, je suis très content parce que je pense que cette émission va être très bien.
D'accord, carrément, le gars, on ne l'a même pas tourné, il est déjà dans la surface.
Non, mais il faut mieux être optimiste.
C'est vrai.
Mais je suis un petit peu triste aussi de savoir que c'est ma dernière avant qu'on se retrouve en août.
On se retrouvera, ne vous inquiétez pas. Et puis, si vous nous écoutez en podcast, on sera là tout l'été. Que ce soit nous ou d'autres, Eurosport vous accompagnera évidemment.
D'autres qui sont bien meilleurs d'ailleurs.
Oui, ça on ne le dira pas, on le dira pas. tout au long du mercato. Julien, de quoi parlons-nous aujourd'hui dans ce mercredi mercato?
Eh bien, nous allons parler dans un premier temps de Cristiano Ronaldo qui a demandé à quitter Manchester United. Mais on va se poser une question puisqu'il semble ne pas y avoir d'issue. Cristiano Ronaldo est-il démodé? Ce sera notre premier sujet.
Le deuxième sujet concernera le FC Barcelone et Robert Lewandowski. Ça fait presque un mois et demi qu'on attend que ce dossier se décante et on est toujours au point mort. Pourquoi le dossier Lewandowski traîne en longueur? On essaiera de vous donner un panorama un peu complet de la situation des Blaugrana.
Et troisième sujet, on reviendra en Ligue 1 avec une légende de notre championnat, Steve Mandanda, qui s'apprête à quitter Marseille pour s'engager avec Rennes. On se demandera si... si c'est pas un crève-cœur finalement pour l'Olympique de Marseille et pour ses supporters.
Voilà, donc mercredi mercato, vous connaissez la petite chanson, est disponible toutes les semaines en podcast sur vos plateformes préférées. Si vous voulez voir les meilleurs moments de l'émission, rendez-vous sur eurosport.fr pour les vidéos. Et Julien, on en a pris l'habitude depuis quelques semaines désormais. On va commencer cette émission avec trois petites infos mercato, comme ça, pour picorer, pour mettre un peu dans le bain. Le flash mercato, c'est quoi les trois infos du jour en ce mercredi matin?
Alors pour toi, j'ai du Samuel Umtiti qui s'apprête à revenir en Ligue 1 et à s'engager lui aussi à Rennes sous la forme d'un prêt avec option d'achat. J'ai de la pépite, je sais que tu aimes ça, Karamoko qui a signé à Brest, qui est un très très jeune joueur qu'on a connu très tôt au Celtic et qu'on a hâte de voir en Ligue 1. Et j'ai une ancienne star de Ligue 1, Zlatan Ibrahimovic, qui va prolonger d'une saison à l'AC Milan avec une petite réduction de salaire au passage.
Voilà pour le flash mercato. Alors, mercredi mercato, c'est parti. Julien, dans le premier sujet, on va parler d'un homme qui agite les colonnes de tous les sites européens depuis dimanche dernier. C'est évidemment Cristiano Ronaldo. Avant de revenir en détail sur la suite et sur le fait de savoir si Cristiano Ronaldo est bloqué à Manchester United, on voulait faire un point avec vous sur la situation actuelle. Donc, on a appris dimanche dernier via le très sérieux The Time que Cristiano Ronaldo avait demandé son départ de Manchester United. Depuis, il n'est pas revenu à l'entraînement avec les Red Devils et est toujours au Portugal. On a eu aussi l'info selon laquelle son salaire allait diminuer en raison de l'absence de Manchester United en Ligue des Champions. Et ça, c'est quelque chose qui le frustre un petit peu. Côté des éventuels prétendants, on a appris selon The Athletic que Chelsea était venu aux nouvelles et AS nous a appris mardi matin qu'un dîner avait eu lieu entre Jorge Mendes pardon et Joan Laporta, le président du Barça, pour évoquer un éventuel dossier Cristiano Ronaldo. On reviendra un peu plus en détail sur tout ça parce que on n'y croit pas forcément. Mais j'en viens à ma question fatidique, Julien. Cristiano Ronaldo est-il bloqué à Manchester United?
J'aurais plutôt tendance à dire oui. Pour la simple et bonne raison que plus aucun club ne peut se permettre de miser sur un joueur de cet âge. Alors, tout talentueux qu'il est et avec tout ce qu'il peut apporter sur le plan sportif et marketing, aucun club ne peut se permettre de payer un salaire aussi élevé pour une aventure qui sera probablement très courte, parce que Ronaldo a 37 ans et que maintenant, vous ne pouvez plus construire un projet autour de Cristiano Ronaldo.
Salaire estimé à 31 millions d'euros annuels. Hein. C'est le meilleur, le joueur le mieux payé en Première Ligue.
Absolument. Et il y a quand même une baisse qui va être assez significative à Manchester United. Donc, on était à 480 000 livres par semaine. On va passer à 360 000, c'est ça si tu,
Tout à fait. Si donc, on pourra avoir quasiment un salaire à 20 millions d'euros en raison de l'absence de qualification de Manchester United en Ligue des Champions.
Donc, c'est une baisse qui est importante. Et malgré cette baisse importante, si vous prenez la grille de salaire des clubs qui pourraient potentiellement le faire venir, eh ben Ronaldo serait quand même le joueur le mieux payé de l'effectif. Donc, c'est évidemment un énorme risque financier, même s'il y a des clubs, on peut parler du Bayern notamment,
ouais,
qui est un club qui est très bien structuré financièrement, qui n'a pas de problème de sous, mais qui n'a pas pour habitude de reprendre un joueur et d'en faire directement le joueur le mieux payé de son effectif. Il y a l'exemple Sadio Mané qui vient d'arriver et qui touche pas deux fois moins, mais qui touche 13 ou 14 millions d'euros. C'est 6 millions de moins que la plupart des grosses stars du vestiaire. Donc, ce n'est pas dans la politique du Bayern, bloqué parce que effectivement les prétendants sont peu nombreux et surtout les prétendants qui peuvent se permettre de prendre le risque sont quasiment inexistants.
Bah, on s'est amusé à faire un petit tour d'horizon des possibles prétendants à la signature de Cristiano Ronaldo. Le FC Barcelone, on l'a dit, il y a eu ce dîner entre Laporta et Jorge Mendes, mais la situation financière du FC Barcelone empêche complètement cette arrivée-là. Donc, Barcelone, on écarte. Bayern Munich, tu l'as dit, c'est ni dans la politique, ni dans l'intérêt du Bayern de Munich de miser autant d'argent sur Cristiano Ronaldo. On écarte. Il y a deux clubs un peu inférieurs, le Napoli et la Roma, qui sont cités parmi la presse espagnole. Là, il y a quand même un déficit de notoriété et en tout cas de stature pour Cristiano Ronaldo, qui veut gagner des titres, qui veut gagner la Ligue des Champions. Donc, on le voit très mal imaginer une aventure au Napoli ou à la Roma. Il reste Chelsea, qui est donc le club qui est venu aux nouvelles. Moi, j'ai un gros doute là-dessus. On vous a mis un point d'interrogation parce que ça semble plus dépendre du nouveau propriétaire américain que de Thomas Tuchel. Peut-être que le propriétaire américain voudra frapper un grand coup. Mais ça reste à ce jour l'option la plus chaude avec énormément d'inconnus dans le dossier. Et ça ne m'étonnerait pas que Chelsea soit juste venu prendre la température sans vraiment envisager la signature de Ronaldo.
Oui, et ça ne m'étonnerait surtout pas que Tuchel ne désire pas la venue de Ronaldo, mais que ce soit plutôt une volonté du nouveau propriétaire de frapper un grand coup pour marquer le coup, justement.
Ouais.
Et donc, ce serait un risque pour Ronaldo d'aller à Chelsea, parce que si vous n'êtes pas vraiment désiré par votre entraîneur, il y a quand même peu de chances que ça fonctionne après. Pour revenir sur la Roma, juste pour expliquer à nos auditeurs que c'est un non-sens absolu, ouais, pour plein de raisons, notamment parce que Mourinho, ça n'a jamais été évident entre les deux hommes, aussi parce qu'il quitte Manchester, parce qu'il ne joue pas la Ligue des Champions, c'est pas pour aller à la Roma.
C'est clair.
Donc pour moi, oui, tu l'as dit, toutes ces pistes-là, elles sont compliquées. Moi, il y a une piste qui, je trouve, ferait sens sportivement. J'ai bien dit sportivement. Pour le reste, c'est plus compliqué, on l'a déjà évoqué. Mais sportivement, pour moi, le Bayern, ça aurait du sens. Parce que déjà, c'est le seul championnat où Ronaldo n'a pas gagné, où Ronaldo n'est pas passé. Parce que remplacer Lewandowski par Ronaldo, pour moi, c'est pas une bêtise. C'est plutôt le même évident. Et parce que globalement, sur le jeu qu'on a vu du Bayern, même si ça a plutôt tendance à changer avec Nagelsmann, avoir une pointe comme celle-ci qui vous marque des buts et qui est un vrai joueur de surface, je trouve que ça aurait du sens. Après, il y a évidemment tout ce qu'on a évoqué sur le plan économique.
Ouais. Je sais que tu n'es pas d'accord. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Parce qu'en fait, si on a parlé du cas de Chelsea, on a parlé du Bayern Munich. Mais si on prend le temps de prendre un peu de recul et de regarder aujourd'hui le panorama européen. Le souci pour Cristiano Ronaldo, c'est qu'il est démodé aux yeux des plus grands clubs européens. Si vous regardez ce qui se passe partout en Europe, on est sur des projets qui sont centrés sur des managers. À Liverpool, il y a Jürgen Klopp. À City, il y a Guardiola. À Tottenham, il y a Conte.
Manchester United.
À Manchester United, il va y avoir Ten Hag désormais. Et même si on pousse et si on va plus loin que les frontières seulement anglaises, au Bayern, t'en as parlé, c'est Nagelsmann, et on semble être dans une volonté au Bayern de mettre et de donner tous les pouvoirs à Nagelsmann. Et à mon avis, Nagelsmann et les Cristiano Ronaldo, ça va pas du tout ensemble. Et pareil pour le FC Barcelone, où c'est Xavi qui a pris le pouvoir. Et en fait, on est sur un changement de paradigme. On est un peu passé dans l'ère post-Ronaldo et Messi. Aujourd'hui, ce qui compte pour les plus grands clubs européens et ceux qui veulent prétendre aux plus grands titres en Europe, ce n'est plus les joueurs, c'est le système et le système de jeu et les idées de jeu et le manager. Donc, on arrive avec des mercatos où ce sont les managers qui décident de tout ça et donc de mettre ce projet de jeu au cœur de leur projet, entre guillemets. Ça exclut de fait Cristiano Ronaldo. Pourquoi ? Parce que Cristiano Ronaldo, dans le panorama actuel, il a 37 ans, on en a parlé. Forcément, pour un projet de long terme, on n'est pas sur le profil adapté. Mais surtout, dans le football réclamé en 2022, il colle quasiment aucune case. Alors, il reste ultra décisif et il restera presque ad vitam aeternam l'un des joueurs les plus décisifs au monde. En revanche, quand on pense à Cristiano Ronaldo, on ne pense pas contre-pressing, on ne pense pas intensité, on ne pense pas course et kilomètres parcourus par match. Or, c'est toutes ces données-là qui sont désormais primordiales pour les plus grands clubs européens. Donc, au fond, Ronaldo, il est encore là en 2022, mais son ère est passée et l'ère des super joueurs autour desquels on construit des projets semble un peu touchée à sa fin. Et Ronaldo en est finalement le meilleur exemple. Il y a deux clubs qu'on n'a pas encore évoqués qui sont un peu à contre-courant. C'est le Real Madrid, parce que c'est le Real Madrid et qu'il a sa logique propre, même si on le sait, ils sont très fans des très très grosses stars. Et c'est le Paris Saint-Germain qui, lui, est enferré dans une stratégie qui continue de payer un petit peu et sur laquelle il essaye de revenir, à savoir de prendre des grands noms plutôt que de réfléchir à long terme sur le projet sportif. Donc, vous voyez que le sens de l'histoire ne plaide pas en faveur de Cristiano Ronaldo.
Ouais, en fait, cette question-là, Ronaldo est-il démodé ? Ça revient à se poser une autre question, c'est Ronaldo est-il encore capable de se réinventer, de se renouveler ? C'est un joueur qui a beaucoup évolué tout au long de sa carrière dans le jeu. Est-ce qu'il est encore capable de le faire à 37 ans ? Parce qu'évidemment, je suis assez d'accord avec ce que tu disais sur le fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus compter sur lui sur le pressing et que le pressing est devenu tellement important, notamment le pressing haut, tellement important en Première Ligue et c'est en train de le devenir dans d'autres championnats également. Tout ça, ça met un petit peu Ronaldo dans une impasse et je ne sais pas s'il est encore capable de se réinventer ou même de se poser la question de savoir s'il a besoin de se réinventer pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau.
En fait, aujourd'hui, tu as parlé de Sadio Mané. Un profil à la Sadio Mané est beaucoup plus recherché par les plus grands clubs européens qu'un profil à la Cristiano Ronaldo parce que ce qu'on demande, ce qu'il apporte en tout cas à une équipe, Sadio Mané, coche toutes les cases de ce que n'apporte pas forcément Cristiano Ronaldo. Il y a quand même un truc à dire sur Cristiano Ronaldo, c'est que où qu'il aille, c'est quasiment l'assurance d'avoir 30 buts par saison. Et ça, il y a quand même assez peu de joueurs qui peuvent le garantir sur la planète football. Et on ne lui enlève pas ça, simplement sur la logique et le fonctionnement interne des plus grands clubs européens, ceux qui veulent gagner la Ligue des Champions, ce qui est aussi le souhait de Cristiano Ronaldo, ben on n'est plus du tout sur ces schémas-là et on n'est plus du tout sur une volonté de remettre des joueurs au cœur d'un projet, comme on l'a dit. Donc, oui, Cristiano Ronaldo semble bien bloqué à Manchester United et on a presque hâte de voir ce que ça peut donner la saison prochaine avec Ten Hag. On sait que les Mancuniens, eux, veulent retenir Cristiano Ronaldo. Wait and see, on a envie de dire, Julien. Ça dépend presque uniquement de Chelsea.
J'ai une dernière chose pour poursuivre ce que tu disais, Ronaldo a tellement été important, entre guillemets, il a tellement été décisif la saison dernière avec Manchester United, notamment dans des moments assez importants, je pense à la Ligue des Champions, que finalement, ça n'incite pas vraiment à la remise en question de son côté. Ouais. Parce que lui, il peut très bien se dire, écoutez, j'ai été le meilleur joueur de Manchester encore une fois cette saison, il n'y a pas de raison que je change finalement. Le problème, c'est que le projet de Manchester United est tellement dans des profondeurs, dans des abysses, que le décalage n'incite pas vraiment à cette remise en question que Ronaldo devra enclencher pour pouvoir poursuivre sa carrière au meilleur niveau.
On passe au deuxième sujet, Jap. Je pense qu'on a fait le tour sur Cristiano Ronaldo. On va parler d'un autre attaquant qui continue presque tous les jours de faire la une de la presse catalane. C'est évidemment Robert Lewandowski avec une question centrale. Julien, pourquoi le dossier Lewandowski traîne autant ? On s'est amusé à retracer les différentes dates de la rumeur Lewandowski et en tout cas du dossier Lewandowski. Ça a commencé déjà fin mai, 23 mai, la première offre du Barça de 32 millions plus 5 millions d'euros. Une semaine plus tard, on a Robert Lewandowski qui, face au micro, affirme son désir de quitter la Bavière et de quitter le Bayern Munich. Depuis, on a eu une deuxième offre le 24 juin. 35 plus 5 millions de bonus. Et une dernière offre, il y a bientôt une semaine, le 29 juin, 2022, avec cette offre à 40 millions plus 5 millions de bonus. On est encore loin des 50 millions finalement réclamés par le Bayern Munich. Et une question toute simple, pourquoi le Barça n'arrive pas à conclure ce dossier et pourquoi ce dossier traîne en longueur, Julien ?
Bah, il y a déjà le schéma classique des négociations. Finalement, le mercato risque d'être encore très long. Il y a encore presque 2 mois, un petit peu moins de 2 mois de négociations. On sait que le Barça veut Lewandowski, on sait que Lewandowski veut aller au Barça. On sait aussi que le Bayern a tout intérêt à vendre Lewandowski cette saison parce qu'il lui reste 1 an de contrat. Ouais. Et que s'il souhaite récupérer une indemnité de transfert, il faut le vendre cette saison. Donc globalement, il y a le schéma classique des négociations où chacun espère que l'autre va plier et finir par rompre. Et que le temps semble plutôt, dans ces schémas-là, jouer en faveur du club acheteur parce que le Bayern devra finir par céder s'il ne souhaite pas se retrouver avec ce qui sera probablement un boulet sur la suite de la saison. Parce que quand vous retenez un joueur qui a envie de partir, c'est jamais une bonne chose. Donc globalement, le Bayern aura plutôt tout intérêt à accepter et à accepter de négocier, en tout cas de revoir ses ambitions de transfert, d'indemnité de transfert à la baisse d'ici la fin du mercato.
Ce qui est terrible, c'est que ce dossier Lewandowski, c'est le symbole de la situation financière du Barça qui s'est complètement délitée. Il y a 4 ans, 5 ans, ce dossier-là, il aurait été résolu en une semaine. Et là, on a l'impression qu'en un mois et demi, on est encore loin de la résolution, finalement, du dossier, et que le Barça attend beaucoup d'autres choses, et notamment de nouveaux revenus pour pouvoir vraiment conclure le dossier Lewandowski et après s'aventurer sur d'autres pistes. Parce qu'on parle de Lewandowski, mais il y a aussi d'autres renforts qui sont évoqués, Rafinha, Bernardo Silva. Il y a beaucoup de noms qui circulent dans le sens des arrivées, mais le Barça a encore besoin d'argent pour conclure ces arrivées-là. Et donc, le Barça est en train un peu d'hypothéquer son avenir à court, à moyen et à long terme. Julien, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ça sur... Le Barça cherche à dégager des fonds et de l'argent frais dès maintenant, mais donc se met en danger pour la suite.
Oui, parce que pour celles et ceux qui suivent le mercato d'assez loin, ça peut être une surprise de savoir qu'un club qui est endetté à plus d'un milliard d'euros, qui a un plafond salarial qui doit être réduit encore une fois cette saison, se mette sur des pistes qui coûtent plusieurs dizaines de millions d'euros, comme Lewandowski, comme Bernardo, comme tous les joueurs que tu viens de citer. En réalité, le Barça a actionné des leviers pour avoir des fonds immédiats. Alors, le Barça a vendu une partie de ses droits TV. Ils ont négocié l'accord avec leurs socios, pour pouvoir vendre une partie de ses droits TV à hauteur de 25%. Jusqu'à présent, seuls 10% ont été vendus, mais ça a quand même rapporté 207 millions d'euros cash. Le Barça a également vendu une partie des parts de sa société commerciale, donc de son merchandising. Grosso modo, quand le Barça vend des maillots, ça revient, les revenus sont pour une société. Et le Barça a revendu une partie de cette société à hauteur de 49,9% pour là aussi récolter une somme qui se situerait entre 200 et 300 millions d'euros. L'objectif, c'est de réinjecter tout de suite une partie de ces sommes pour se renforcer cet été, notamment pour Lewandowski. Le problème, c'est que...
C'est toujours pas suffisant.
c'est toujours pas suffisant. Et de deux, en faisant cela... Le Barça prend quand même de gros risques pour son avenir à court et moyen terme parce que les droits TV, c'est une vente sur 25 ans et que globalement, le Barça s'est assuré pendant 25 ans de ne plus percevoir 25% de ce qu'il touchait jusqu'à présent sur ses droits TV. Donc, c'est quand même un montant important. Malheureusement, le Barça n'a plus le choix parce que si vous voulez rester compétitif, vous devez faire venir des joueurs qui vont vous permettre de rester compétitif. Ce sont des joueurs qui sont réclamés par Xavi. Et donc, globalement, le Barça n'a plus le choix. Avant le retour de Laporta, il hypothéquait son avenir en s'endettant sur des transferts complètement farfelus. Maintenant, il hypothèque un petit peu plus son avenir sur, tout simplement en vendant ses propres biens. C'est comme si vous vendiez une partie des meubles dont vous aviez besoin pour vivre. Le Barça fait un petit peu ça en ce moment.
Le souci, c'est que Laporta, il a hérité de ce bilan économique désastreux de Bartomeu et qu'il n'a pas d'autre choix.
C'est pas une critique.
C'est juste un constat. Il n'avait pas le choix. Pour avoir de l'argent frais et donc réinvestir sur ce mercato, il est obligé de faire ces choix-là. Et il est aussi obligé, parce que là, on a parlé de choses hors terrain, mais même sportivement, quand on regarde le mercato qui se dessine dans le sens des départs du côté du FC Barcelone, on a l'impression que le Barça est obligé de vendre ses plus beaux actifs qui sont sur le marché. Hormis, on met de côté Pedri et Ansu Fati, qui sont des cas à part et qui sont des symboles du FC Barcelone, de la formation, qui seront intouchables. Mais il y a trois noms qui reviennent très souvent dans le sens des départs. De Jong, Dest, Depay. Pourquoi ces trois noms-là? Parce que c'est simplement quasiment les trois plus belles valeurs marchandes du FC Barcelone, ou en tout cas les trois noms sur lesquels le Barça peut gagner de l'argent. Et ça dit tout finalement de la fuite en avant qui est obligée d'opérer le Barça pour se renforcer. Ça dit aussi beaucoup sur l'autre catégorie des joueurs annoncés sur le départ. C'est tous ces joueurs achetés à la période Bartomeu, surpayés et qui se retrouvent un peu comme le Paris Saint-Germain dans une situation très confortable au FC Barcelone malgré une situation sportive critique et qui ont du mal à trouver une porte de sortie parce qu'ils se sont tout simplement démonétisés. Alors on vous a mis ici les exemples de l'Anglais, de Umtiti qui sont proches d'un départ du FC Barcelone, mais ces joueurs-là, ils vont être prêtés avec des options d'achat, mais rien ne garantit que ces options soient levées. Et le Barça a encore énormément de mal à dégraisser et à libérer des joueurs pour gagner de la masse salariale. Donc, on voit que la situation, elle est très, très, très tendue financièrement. Elle reste très tendue, que le Barça est obligé de faire des choix stratégiques contestables, mais nécessaires, et que donc, le dossier Lewandowski traîne en longueur en raison de tout ce qu'on vient d'expliquer là.
Oui, et l'inquiétant aussi, c'est que on n'est pas certain que Lewandowski soit suffisant pour satisfaire Xavi. Il y a plusieurs médias espagnols notamment qui annonçaient que si De Jong partait, il fallait absolument aux yeux de Xavi que l'arrivée de Bernardo Silva soit certifiée. Bernardo Silva, si Lewandowski c'est 50 millions d'euros, Bernardo Silva ça sera probablement encore un petit peu plus.
Il vient d'un club anglais.
Il vient d'un club anglais, donc ça incitera le Barça à faire de nouveau des concessions, même des sacrifices plutôt. Ouais. Sur son mode de fonctionnement. Il ne faut pas oublier quand même que le Barça est toujours condamné à réduire son plafond salarial et que ça aussi, ça ne facilite pas les négociations quand vous cherchez des joueurs comme Lewandowski qui émarge à 20 millions d'euros par an au Bayern en ce moment. Donc, c'est très, très compliqué et probablement que ça durera encore de longues semaines, ce feuilleton Lewandowski.
Dernière petite précision, peut-être pour rappeler que la piste Rafinha est peut-être liée à l'avenir d'Ousmane Dembélé, dont on attend encore la réponse définitive. Mais Ousmane Dembélé était dans la catégorie des joueurs surpayés. Et par exemple, Ousmane Dembélé, s'il venait à prolonger au FC Barcelone, diviserait son salaire par deux, ce qui dit aussi beaucoup de la puissance financière qui s'est largement effritée du FC Barcelone. On est tout bon, Julien. On va passer au dernier sujet, un sujet franco-français qui dépasse même le cadre de l'Olympique de Marseille. C'est le départ annoncé de Steve Mandanda de l'Olympique de Marseille vers le stade Rennais. Beaucoup de médias français sont sur la même ligne désormais, ça va se faire. Steve Mandanda va être libéré par l'Olympique de Marseille pour rejoindre le Stade Rennais. Il a longuement hésité, le portier international. Il a beaucoup discuté notamment avec Bruno Genesio qui a fini par le convaincre. On sait que Rennes cherchait depuis de longues semaines un portier de stature internationale après l'échec Alfred Gomis. Ça a fini par se faire, il a été convaincu et surtout, il n'a pas été retenu. Et c'est sur ça qu'on va insister, Julien. Steve Mandanda, il a mal vécu la concurrence la saison passée de Paul Lopez, non pas tant sur la concurrence, mais sur la communication en interne autour du cas du gardien. Et ça l'a beaucoup crispé, ça l'a surtout beaucoup déçu. Et au final, ce départ de Steve Mandanda vers Rennes, c'est un peu un crève-cœur pour les Marseillais, mais même pour le football français, parce que je pense que tu vas être d'accord avec moi. Pour moi, c'est anormal de ne pas voir Steve Mandanda terminer sa carrière à l'Olympique de Marseille et de ne pas voir Steve Mandanda se retirer sous les ovations méritées, qu'il aurait méritées de la part du Vélodrome. Et c'est presque un petit pincement au cœur pour les amoureux de football.
Oui, il a été déçu et je pense que tous les supporters marseillais seront déçus de le voir partir. Il n'a pas été déçu finalement d'être un simple numéro 2, c'est plutôt la manière. En fait, on lui a pas vraiment laissé sa chance en début de saison avec Sampaoli. On lui a mis Paul Lopez dans les pattes et on lui a dit on le met lui parce qu'il sait faire des choses que toi, tu ne sais pas faire. Sans finalement essayer de voir si ça pouvait marcher avec Mandanda. Et puis, en fin de saison, quand on a vu que Paul Lopez, c'était un petit peu plus compliqué pour lui, on a remis Mandanda dans la cage et on a vu que ça fonctionnait globalement bien encore. Donc, il y a cette espèce de frustration. Globalement, il a toujours été exemplaire, Mandanda, même à ce niveau-là. Quand vous voyez les images, l'Olympique de Marseille fait pas mal d'images en interne. Quand vous voyez la relation qu'il avait avec Sampaoli, vous vous rendez compte que dans le comportement, c'est vraiment un joueur exemplaire. qu'il a été déçu par sa situation sportive, c'est évident et c'est même compréhensible. On pensait quand même que avec l'arrivée, avec le départ de Sampaoli, l'arrivée de Tudor, bah, il y aurait peut-être finalement un petit départ à zéro. Et puis, lors de la présentation du nouvel entraîneur marseillais, Pablo Longoria a dit en conférence de presse que on repartirait sur le même schéma cette saison, à savoir une grosse mise en concurrence entre les deux hommes. Et Mandanda est probablement pas prêt à vivre une deuxième saison comme celle qu'il vient de vivre. Et c'est assez logiquement finalement qu'il se soit tourné vers un autre club français, surtout un club qui va disputer qui sera en tout cas un candidat à l'Europe en Ligue 1. Et pour moi, c'est peut-être plus ça le plus grave. Que Marseille laisse filer Mandanda, finalement, c'est pas une surprise quand on connaît le contexte et quand on sait ce que va en faire Longoria, ce que va instaurer Longoria et Tudor. En revanche, renforcer un club qui sera probablement un concurrent direct pour la Coupe d'Europe la saison prochaine, pour moi, c'est un petit peu plus problématique. D'autant que, dans la cage, j'ai quand même tendance à penser que Paulo Lopez n'est pas un indiscutable. Oui, c'est un bon gardien. Oui, il peut même être très bon. Il l'a montré la saison dernière. Pour moi, faire de Lopez un indiscutable, c'est un petit peu plus compliqué.
Oui, tu l'as dit, il termine quasiment la saison titulaire, Mandanda. Sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, il en dispute 4. C'est lui qui joue les matchs importants en Ligue Europa Conférence. Donc, on était peut-être en mesure de se dire que Mandanda pouvait regagner sa place. Et encore une fois, je pense que c'est quand même un risque pris, et peut-être le premier de la part de Pablo Longoria depuis son arrivée en tant que président de l'Olympique de Marseille. Pas tellement sur la planification sportive, parce qu'encore une fois, on comprend la logique derrière et on comprend ce qu'il veut faire depuis qu'il est arrivé. En revanche, dans la relation avec les supporters et dans l'image qui se dégage de ça, c'est-à-dire que l'OM est incapable de bien traiter sa plus grande légende récente et le joueur qui a disputé le plus de matchs sous le maillon de l'Olympique de Marseille, quand même, on insiste là-dessus, mais c'est ça que pèse et représente Steve Mandanda aujourd'hui, bah, ça abîme fatalement le message de Longoria et ça dit quand même beaucoup de l'incarnation nouveau monde qu'il représente, qui n'est pas forcément la plus classe qui soit dans la planète football.
Oui, parce que globalement, il y a quand même une unanimité autour de Longoria depuis qu'il est président de l'OM, et qui est assez logique, parce que globalement, il a réussi tout ce qu'il a mis en place depuis qu'il a la tête du club. Et là, c'est effectivement un vrai risque. C'est aussi un risque sportif et financier, pas seulement symbolique, parce que on a vu ce que donnait Lopez, mais on a vu ce que donnait Lopez quand il était mis en concurrence. Là, globalement, je ne suis pas certain que Marseille ait planifié l'arrivée d'un autre gardien, en tout cas d'un autre numéro 1 bis, parce que ça va évidemment affecter le budget des transferts, maintenant que ça va être une obligation si Mandanda part. Donc, vous prenez ce risque financier-là, vous touchez l'enveloppe que vous n'aviez pas prévue pour ce poste-là. Et puis, si ça se passe mal cette saison avec Lopez, qu'on se rend compte que sans cette concurrence qu'il avait la saison dernière, bah, il est un petit peu moins performant, il redevient un petit peu celui qu'il avait été en Italie, bah là, forcément, lui sera reproché à Longoria d'avoir vendu un gardien qui est encore capable d'être au niveau comme il l'a démontré en fin de saison dernière.
Ça dit aussi quelque chose sur l'Olympique de Marseille qui a beaucoup de mal avec ses joueurs au statut très important. Si on regarde récemment, on se souvient que Mamadou Niang, il était parti pour des questions contractuelles. Le président en place à l'époque n'avait pas réussi à le prolonger. On se souvient que Thauvin est parti libre parce que la direction marseillaise avait traîné des pieds pour le prolonger et le mettre au même niveau, notamment que Dimitri Payet. On se souvient que Gignac est parti parce que à l'époque du projet Borussia Dortmund, on croyait plus en Michy Batshuayi qu'André-Pierre Gignac. Donc, on a l'impression que l'OM a du mal à gérer la fin de ses légendes. Il n'y a qu'un seul cas qui est un peu à part, c'est celui de Dimitri Payet, qui lui a déjà garanti son avenir et qui intégrera l'organigramme du club. On ne va pas se mentir, Julien, Mandanda, il aurait dû avoir le même type de contrat et ça aurait dû se terminer comme ça, que ce soit une belle histoire plutôt qu'une fin un peu en eau de boudin. Et surtout, moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer Mandanda sous un autre maillot français que celui de l'Olympique de Marseille.
C'est ça, c'est absolument ça. Et j'ai hâte de voir l'accueil qui lui sera réservé au Vélodrome quand Rennes se déplacera à Marseille. Parce que effectivement, je pense qu'il y aura quand même une vraie déception. Je n'ai pas vraiment le mot pour décrire ce que pourront ressentir les supporters à ce moment-là, mais c'est un mélange de déception, de frustration. Il y aura évidemment de l'émotion, mais c'est un peu triste, effectivement, de voir Mandanda partir de cette manière.
Et ben voilà, Julien, on va passer au moment décisif, on va passer à la balle de match, puisqu'on va passer au Merca Quiz. Voici donc venu le temps des palpitations, Julien, des pulsations cardiaques à leur maximum, puisque c'est donc le Merca Quiz. On accueille notre cher graphiste Quentin Guichard, qui va donc vous rappeler une nouvelle fois les règles et la nouvelle règle qu'on a imposée, à savoir un one-shot d'entrée. Salut Quentin.
Salut messieurs, ravi de vous retrouver pour cette grande finale. Cette
presque.
Balle de
match. Alors, alors balle de break surtout, parce qu'on se retrouve normalement en août si tout va bien. Mais c'est voilà. Sûr que et Julien pour ses vacances et moi du côté de l'Angleterre pour l'Euro féminin, on préférait avoir la victoire dans la poche pour repartir un peu plus serein.
Histoire de se prélasser sur les plages, l'esprit tranquille. Hein, ouais, je vous connais, messieurs.
Des plages dans le nord de l'Angleterre, moi, je risque d'avoir du mal à en trouver quand même. Mais...
Alors, quelques grèves, ou quelques, oui. Voilà, sur les bords de la Tamise.
Exactement.
Le règlement.
Bah oui, si tu veux bien, hein, si on me dérange pas
c'est
trop.
Très simple, ouais. C'est très simple. Je suis là pour ça. Je vais égrainer la carrière d'un joueur, voilà, en mentionnant quelques indices. Et le premier de vous deux, qui découvre l'identité du joueur, remporte ce point décisif donc dans ce match qui vous oppose de partout. Ouais. Une belle bataille. Et
pas mal et de mal.
On a le droit de donner un nom spontanément avant alors, même d'avoir les indices.
Alors vas-y Julien, si tu veux ouvrir l'honneur pour ce mercredi. Si tu as le bon nom d'entrée, on l'a dit, hein, c'est deux points marqués d'un coup. Julien, quel est ton joueur?
J'hésite entre deux. Ouais, bah, je vais dire Marco Reus.
C'est non.
C'est moi, je vais dire Nemanja Matic.
Pas mal, mais non.
Mais je sens, tu vois, ouais, tous les ouais, deux, Jacques déjà, et moi, ouais. on est parti à l'étranger là. Et il va nous doucher tout de suite. Il va nous dire. Alors, je suis formé à Dijon. Et là, on va voir flou. Alors.
On part à l'étranger, messieurs.
Ouais.
Ah.
L'Euro féminin démarre ce soir. D'accord. Mais ça n'a aucun rapport avec le Merca Quiz.
Ok.
J'ai senti un frisson dans le studio.
Ouais, un frisson ou un grand moment de gêne. Ouais. Là, ça aurait été compliqué. Allez, on y va, Quentin.
Messieurs, bonne chance. Ouais. C'est parti. Je suis né à Wandsworth, au Royaume-Uni.
Ah, c'est bien, tu précises les pays maintenant.
Ah oui, c'est au cas où maintenant.
Parce que Gloucester, c'est toujours pas en Angleterre.
C'est toujours pas en Angleterre, non. Toujours pas au Pays de Galles.
Tu peux refaire la prononciation?
Avec plaisir. Wandsworth.
Ouais, exactement, exactement. Okay. Très bien.
D'accord.
Au Royaume-Uni. Bel indice. Donc. Je débute ma carrière à Tooting et Mitcham United, évoluant en 7e division anglaise, où je révèle mes qualités de buteur en inscrivant 4 buts en 6 matchs.
Est-ce qu'on a une date à un moment? C'est dans les années 80, dans les années 70, un joueur encore en activité. Enfin, il faut...
En octobre 2008.
Ok.
Alors, jeune joueur de 18 ans. Je signe un contrat de 2 ans avec Reading. En 2009, je suis prêté successivement à plusieurs clubs. Tout d'abord dans mon ancien club, Tooting and Mitcham, puis à Cheltenham Town en février, et enfin Southampton en octobre, où je joue jusqu'à la fin de la saison et avec qui je remporte le Football League Trophy. De retour à Reading en avril 2010, je suis immédiatement prêté à Colchester United.
Jamie Vardy.
Revenu à Reading, je joue quelques matchs avec mon club avant d'être prêté à Sheffield Wednesday de février à avril 2012, club de 3e division avec lequel je parviens à être promu. Durant l'été suivant, je suis transféré définitivement à Sheffield Wednesday.
On est d'accord que ce n'est pas Harry Kane. Hein.
Ce n'est pas Harry Kane. Non.
Mais on est d'accord que c'est un attaquant. Tu l'as dit dans ton...
Non,
je ne l'ai pas dit. Non.
Tu n'as rien dit, d'accord, très bien.
Je l'ai pas dit, c'est le calme. En avril 2014, oh non, pas du tout en avril d'ailleurs, en 2014.
Ah, ça change 2014,
tout. Ah, ça change tout. 2014, ok.
En 2014, je signe pour Nottingham Forest.
Oh, putain.
Je débute en force la saison avec 4 buts et 5 passes décisives sur les 7 premières journées.
Okay, bonjour, ce, qui me vaut, priori,
ce qui me vaut d'être nommé pour le titre de joueur du mois en championnat. 2014. Je suis titulaire lors des 46 matchs de Championship et termine la saison avec 15 buts et 14 passes décisives en 49 matchs, toutes compétitions confondues, étant ainsi nommé joueur de la saison de Forest. En août 2015, j'inscris un doublé face à Walsall pour le 2e tour de League Cup et une défaite 4 buts à 3. Quelques ouais. jours plus tard, mon but permet à Nottingham Forest de s'imposer 2-1 face à Rotherham en championnat. Petit clin d'œil pour Cyril Morin.
Ah, mais moi, je suis plus football féminin, finalement. J'aurais presque préféré une joueuse. Ok, donc Rotherham, très bien. Nottingham Forest. On est dans la zone qu'on connaît, mais on ne connaît pas le joueur. Ok.
Mon club avait rejeté au début de l'été une offre de West Bromwich pour un transfert. Le rival de Forest, Derby County, a également fait une offre refusée à son tour. Fin août, West Ham propose une offre de 4 millions de livres, ainsi que le prêt de Matt Jarvis pour la saison. Proposition rejetée par Forest. Le 1er septembre 2015, dernier jour du mercato estival, je quitte finalement mon club pour découvrir la Première Ligue et rejoindre finalement West Ham.
Michael Antonio.
Oui. Ok, aïe, là c'est net. Net, clair, sans bavure.
Boum.
Aïe.
Ah, c'est bon ça.
C'est allé très vite.
Oh, il était dur, cherche, lui.
Chercher un anglais.
Oh.
Michael Antonio. Eh oui. Qui a baroudé un petit peu dans les
ouais, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, mais il est à West Ham depuis, il a plus bougé.
Et il a plus bougé depuis septembre 2015. Et il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de West Ham en Première Ligue il y a quelques mois.
Je suis en tachycardie là, vous imaginez même pas. C'est un truc de malade. Et surtout, ouais, est-ce qu'on peut avoir une image de Julien? Julien, tu veux parler peut-être?
Je suis abattu. Vraiment, c'est un coup dur.
Alors, Julien, tu pars en vacances?
Non, j'annule.
Préserve-toi quand même, préserve-toi.
Ah, bah
il est au fond du gouffre. Il est au fond du gouffre. Et alors, moi, je suis au zénith. Oh, ça fait plaisir. On adore Michael Antonio. C'est quoi ces faits d'armes après? T'allais terminer sur quoi, Quentin?
Alors, ces faits d'armes.
Je pense que je ne l'aurais jamais eu, en fait.
Il est international anglais, non?
Alors, il est appelé en 2016 par Sam Allardyce, ouais. Voilà, pour jouer, mais il ne dispute aucune seconde avec la sélection. Et donc, en février 2021, il décide de changer de nationalité sportive et de jouer pour la Jamaïque.
Ah.
Et donc, il honore sa première sélection face au Panama et une défaite, on s'en souvient, 3-0
bien sûr.
Face au Panama. Ouais.
Je pense que c'est Julien qui avait fait l'article, d'ailleurs. C'est dommage que tu t'en souviennes pas, Julien.
Je suis j'ai même plus envie de faire des vannes.
Ben voilà la magie du Mercat Quiz. J'espère que si vous nous écoutez en podcast, vous avez été meilleur que nous. Mais là, sur ce coup-là, comme pour Çalhanoğlu et pour Jonathan David, on était au rendez-vous.
C'est vrai. Là, ça a fusé. Ça n'a pas traîné.
Et c'est le premier nom que Cyril a de bon et qu'il arrive à prononcer.
Et non, parce que j'ai dit Michael, mais c'est Michael, un truc comme
ça. Michael. Ouais, bon, c'est voilà. Michael. Ouais.
Et moi, je Francis tout. Voilà. Champ-Michel,
bien sûr.
Un nom américain, c'est parfait. Messieurs, merci beaucoup. Quentin, la semaine prochaine, on compte sur toi pour accueillir comme il se doit et surtout pour les bizuter comme il faut Maxime Dupuis et Arthur Merle qui seront aux commandes de ce mercredi Mercato. Il y aura du gros niveau. Julien et moi, on revient très bientôt. D'ici là-bas, portez-vous bien. Mercredi Mercato continue de vous suivre tout l'été, à retrouver en podcast évidemment et en vidéo sur le site d'Eurosport.fr si vous voulez voir les meilleurs extraits. Bah, bon mercredi à vous et surtout, merci beaucoup Michel Antonio.
Salut
à tous.
Salut tout le monde.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.